RFI, 8h à Paris, 9h à Beyrouth, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Marion Cazanov. À la une, ces raids meurtriers d'Israël au Liban.
Au moins 8 morts, Israël dit répondre à des tirs de roquettes non revendiqués. Ce matin, un calme relatif règne dans le sud du Liban, nous dira notre correspondant Paul Khalife. La mobilisation prend de l'ampleur en Turquie. Des milliers de manifestants hier soir pour réclamer la libération du maire d'Istanbul, figure de l'opposition, arrêté pour corruption et terrorisme. Reportage dans ce journal. On reviendra aussi sur cette attaque meurtrière au Niger. 44 civils tués par des hommes armés dans une mosquée, vendredi dans la zone des trois frontières. En France, 90 000 personnes manifestent contre le racisme, qu'elles jugent de plus en plus décomplexé dans le pays. Et puis en football, les Bleus doivent gagner face à la Croatie ce soir s'ils veulent se qualifier en demi-finale de la Ligue des Nations. À l'aller, ils avaient perdu 2-0.
Au moins 8 morts, dont un enfant au Liban, dans des bombardements israéliens.
Israël dit riposter à des tirs de roquettes venus du sud Liban, tirs non revendiqués. La France a condamné hier soir ces tirs de roquettes tout en appelant Israël à la retenue. On retrouve à Beyrouth notre correspondant Paul Khalife. Paul, que dire de la situation au Liban ce matin après une deuxième vague de raids israéliens nocturnes ?
Marion, un calme tendu règne ce matin après une journée difficile qui a rappelé aux Libanais les pires moments de la guerre. Les avions israéliens ont mené samedi en soirée une deuxième vague de raids qui a visé 10 localités dans le sud du Liban, dont un bâtiment dans la ville côtière de Tyr, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Le bâtiment a pris feu. L'aviation a également poussé vers le nord de la plaine orientale de la Beka, où elle a visé un pont reliant le Liban et la Syrie. L'armée libanaise, chargée par les dirigeants du pays de mener une enquête approfondie pour identifier les auteurs des tirs, a saisi dans le sud 3 rampes de lancement de roquettes de fabrication artisanale. Le Hezbollah, qui avait été pointé du doigt dans un premier temps par certaines personnalités politiques, a nié toute implication dans ces tirs et réaffirmé son attachement au cessez-le-feu. Son principal allié, le président du Parlement, Nabih Berri, avait appelé toutes les parties au Liban à ne pas créer de prétexte pour Israël et à se rallier à l'État et à ses institutions. C'est la deuxième fois que des roquettes sont tirées sur la Galilée depuis le cessez-le-feu conclu le 27 novembre, alors qu'Israël a violé l'accord plus de 1500 fois, selon Nabih Berri.
Paul Khalife en direct de Beyrouth pour RFI. Israël ce matin dit aussi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Israël poursuivait aussi ses frappes hier à Gaza. En une semaine, l'offensive a fait au moins 520 morts. L'armée appelle ce matin la population à évacuer un quartier de Rafah dans le sud de l'enclave. En Israël, toujours, le gouvernement poursuit son bras de fer contre la Cour suprême. Le Premier ministre veut limoger le chef du Shin Bet, la sécurité intérieure. La plus haute juridiction du pays a suspendu ce limogeage, mais Benjamin Netanyahou compte passer outre cette décision. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, appelle à la grève générale si le gouvernement passe en force.
Une quatrième nuit de manifestation en Turquie.
Des dizaines de milliers de personnes dénoncent l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, bête noire du président Erdogan. Ekrem İmamoğlu, arrêté pour corruption et terrorisme, présenté hier devant un procureur. Il a dénoncé des accusations sans fondement. Notre correspondante Anand Loher est allée à la rencontre des manifestants qui réclament la libération du maire et la démission du chef de l'État.
Et soudain, c'est comme s'il était là. La voix d'Ekrem İmamoğlu qui retentit dans les haut-parleurs. La foule qui lui répond en chœur. Des dizaines de milliers de personnes. Et parmi elles, Serkan, 27 ans, avec son sifflet jaune.
Ce gouvernement est comme un camion qui roule à toute vitesse sur une pente descendante avec un pneu crevé. Si on ne l'arrête pas, on sera tous écrasés. Ce sera encore pire qu'aujourd'hui. On a la force de l'arrêter. Ce ne serait pas la première fois dans le monde.
İmamoğlu viendra, Erdogan partira. Gouvernement démission. Les manifestants s'époumonent malgré les gaz lacrymogènes qui se propagent dans l'air. Soudé et Acelia, 19 ans, portent une écharpe noire sur leur masque chirurgical. Pour ces deux étudiantes, l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu marque un tournant.
Par des voies illégales, le pouvoir essaye de nous voler notre droit de vote, le droit de choisir nos gouvernants.
Exactement. Le président veut désormais choisir ses opposants, éliminer ceux qui peuvent le battre. Il n'a plus aucune limite. Les gens s'en rendent compte.
Dilek, une retraitée, intervient pour leur donner raison.
Arrêtez, emprisonnez Imamoglu. C'est nous. Arrêtez tout. Je n'aurai plus jamais confiance dans les élections. À quoi bon aller voter ?
Tous promettent de continuer à manifester chaque soir aussi longtemps que nécessaire. Anne-Loire Istanbul et Rafi.
Aujourd'hui, le parti des Crèmes Imamoglu organise une primaire. Le CHP doit investir son candidat pour la présidentielle de 2028 et la formation d'opposition est pour l'instant en tête dans les sondages. En Ukraine, le maire de Kiev dénonce une attaque russe massive contre la ville. Au moins 2 morts dans cette attaque de drone dans la nuit avec des dégâts dans au moins 5 quartiers. Kiev partage les images d'immeubles en feu, en partie éventrés, alors que s'ouvrent demain des négociations en Arabie Saoudite. Discussion indirecte entre l'Ukraine et la Russie sous médiation américaine.
RFI 8h06 à Niamey, au Niger, cette attaque meurtrière dans une mosquée.
Au moins 44 civils tués par des hommes armés, ça s'est passé vendredi dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières. L'attaque, visiblement une opération de représailles, s'est déroulée au moment de la grande prière. Les djihadistes ont encerclé la mosquée du village de Fambita avant d'ouvrir le feu. Les attaques sont quasi quotidiennes dans cette zone où l'armée nigérienne multiplie ces derniers jours des opérations contre des éléments de l'EIS, l'État islamique au Sahel. Guillaume Thibault.
Dans le communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités militaires parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, puis indiquent « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs seront traqués ». Choqué, Amadou Haruna Maïga, le coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, a rendu hommage aux victimes ce samedi lors d'un point presse.
« Je présente mes condoléances les plus émues aux victimes tombées sous les balles des barbares. Mais ceux qui sont en train de perpétrer ces attaques-là, eux pour eux, Dieu n'existe même pas. »
La zone de Fambita, village de la commune de Kokorou, est en partie sous le contrôle d'éléments de l'État islamique au Sahel qui mettent en place des barrages routiers pour prélever des taxes. Il y a 8 jours, dans le cadre de l'opération NIA, le Courage, l'armée a lancé 2 importantes missions dans la région contre ce groupe armé et annoncé via un communiqué avoir neutralisé 90 djihadistes, 9 soldats ont été tués durant ces combats. Amadou Haruna Maïga appelle toutes les forces vives du Niger à lutter contre les groupes armés.
La guerre là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour soulager la souffrance des populations.
Suite à l'attaque de la mosquée de Fambita, les autorités militaires du Niger ont décrété 3 jours de deuil national.
Et ce deuil national s'achève demain. Plus de 500 000 migrants priés de quitter les États-Unis. L'administration Trump a mis fin à un programme lancé par le gouvernement précédent qui donnait une protection légale à des milliers de personnes.
Les États-Unis ou l'université de Columbia cède à la pression de Donald Trump.
La prestigieuse université accepte de se plier à une série d'exigences dans l'espoir de récupérer des centaines de millions de dollars de subventions gelées. Le président reproche notamment à l'institution avait fait une cible de l'institution critiquant sa gestion du mouvement étudiant pro-palestinien. À New York, Lubna Anaki.
Donald Trump aura finalement eu gain de cause. Il lui aura suffi de couper 400 millions de dollars à Columbia pour que l'université capitule et dise oui aux réformes exigées par l'administration. Oui à la création d'une force de sécurité interne, 35 agents spéciaux chargés de faire régner l'ordre sur le campus. Oui à une réforme des règles de manifestations étudiantes avec notamment l'interdiction du port du masque. Oui à l'adoption d'une définition précise de l'antisémitisme. Et oui à la nomination d'un surveillant à la tête du département d'études sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique que le gouvernement souhaitait placer sous tutelle académique. Des concessions dénoncées par une partie des professeurs et certaines organisations de défense des libertés académiques qui voient là un dangereux précédent car d'autres universités pourraient devoir elles aussi plier de peur de se voir menacées de coupes budgétaires. Une situation qui offre à Donald Trump un pouvoir jugé dangereux par beaucoup sur le monde académique. Lubna Anaki, New York, RFI.
En France, au moins 90 000 manifestants contre le racisme et la montée de l'extrême droite.
À l'appel des syndicats et de plusieurs associations de défense des droits humains, des cortèges partout dans le pays hier et des manifestants prêts à donner de la voix face à des propos et des violences à caractère raciste de plus en plus débridés. Reportage dans le cortège parisien, Baptiste Coulon avec Bertrand Éclair.
Avant, c'était un peu la honte d'être raciste, mais en ce moment, il y a une banalisation totale et c'est vraiment pas normal.
Contre le racisme et toutes les discriminations, une manifestation pour se faire entendre et ne pas s'habituer aux discours de haine. Dans le cortège, notamment, des collectifs de soutien aux exilés comme Priscilla, arrivée en France il y a 3 ans.
Je viens du Congo Brazzaville et se retrouver en tant qu'étranger, c'était nouveau pour moi déjà. J'entendais parler du racisme, mais c'est ici que je l'ai vécu.
Il y a les mots et parfois plus.
Des agressions d'extrême droite, comme on en a eu à Lille, où l'extrême droite est intervenue extrêmement violemment.
Jean, qui milite dans un collectif d'exilés du nord de la France, pointe du doigt la loi immigration votée il y a 1 an et les responsables politiques.
On voit déjà les effets de la loi Darmanin. Que ce soit le gouvernement et l'extrême droite, ils sont en raccord parfait sur toutes ces lois-là.
20 000 personnes dans la rue ne changeront pas la donne, admet le militant, mais cela donne du courage, dit-il, pour continuer la bataille.
Reportage de Baptiste Coulon à Paris avec Bertrand et Claire.
Et Marion, on reste en France où les Bleus sont dos au mur en Ligue des Nations.
Mais c'est du football et l'équipe de France doit impérativement gagner ce soir si elle veut se qualifier pour les demi-finales, puisqu'à l'aller, elle a perdu 2-0 face à la Croatie de Luka Modric. Il faudra donc tout renverser ce soir au Stade de France, Victor Missistrano.
Oui, car les Bleus ont livré une prestation calamiteuse en terre croate. Alors le capitaine Kylian Mbappé a-t-il pris la parole pour remettre les pendules à l'heure ? Réponse du milieu Aurélien Tchouaméni.
Très bonne question, mais ce qui reste dans le vestiaire restera dans le vestiaire.
Il y en avait des choses à dire et des erreurs à pointer jeudi. Une défense perméable, un manque de justesse technique et d'efficacité en attaque et ces innombrables glissades sur la pelouse, les Bleus vont vite devoir se relever.
Il y avait 2 batailles à gagner. Malheureusement, on a perdu la première. 2-0, c'est pas un résultat idéal, mais il y a déjà eu plein de remontadas. Forcément qu'on va tout faire pour essayer de marquer le plus rapidement possible, de mettre un peu de folie dans ce match-là.
Un brin de folie comme ce soir de novembre 2013, battu 2-0 en Ukraine. Les Bleus avaient tout renversé dans un stade de France en fusion pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Didier Deschamps était déjà sur le banc.
Comparé par rapport au match qu'on a eu en 2013, déjà pour eux, ça leur parle pas forcément. Ça veut dire que c'est moins, c'est plus. On sait ce qu'il y a, l'enjeu. L'objectif qu'il y a.
Enjeu plus relatif ce soir dans une Ligue des Nations peu captivante. Il s'agit surtout de redevenir une équipe et de reconquérir un public trop souvent déçu ces derniers temps.
Victor Missistrano, France-Croatie. Le coup d'envoi, c'est donc à 19h45, temps universel. Un match que l'on suivra sur RFI avec des points réguliers dans nos journaux. Et en football toujours, la fin hier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2 matchs 2 nuls, 2 partout entre le Togo et la Mauritanie, 0-0 entre le Soudan et le Sénégal. Et vous en reparlerez sûrement avec Antoine Grenier qui revient dans une petite demi-heure, Julien.
Tout à fait, merci Marion Cazanov. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 20 minutes et un nouveau sujet de fierté, tiens, pour les Ivoiriens. Ils sont les plus heureux d'Afrique de l'Ouest, à en croire en tout cas le classement mondial du bonheur de l'université d'Oxford. La Côte d'Ivoire, 98e sur 147 pays et première de la sous-région. Quels sont les secrets du bonheur à l'Ivoirienne ? On retrouvera Benoît Almeras à Abidjan. Juste après, vous nous l'avez dit Marion, ce sera le journal des sports et un nouveau point sur les éliminatoires de la Coupe du Monde pour les équipes africaines. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche, avec en France un appel à la mobilisation pour Boualem Sansal.
Une affaire qui continue de faire du bruit. Du bruit, oui, mais pas assez, estime dans la tribune dimanche le comité de soutien à l'écrivain franco-algérien, emprisonné en Algérie depuis le 16 novembre. Boualem Sansal, contre lequel la justice algérienne vient de requérir 10 ans de prison alors qu'il a 80 ans et souffre d'un cancer. La stratégie de dialogue discret n'a pas donné de résultats tangibles, constate donc le comité de soutien Boualem Sansal, qui appelle un rassemblement mardi à Paris. Alors que la tension entre la France et l'Algérie est particulièrement vive ces derniers mois, l'écrivain est devenu, bien malgré lui, l'otage de cette relation tourmentée entre Paris et Alger, écrivent ses soutiens, qui fustigent un pouvoir algérien décidé à réprimer toute parole indépendante et qui s'inquiète des réquisitions du procureur d'Alger réclamant 10 années années de prison, ce qui équivaudrait tout simplement, si elles étaient confirmées, à une condamnation à mort, écrit le comité de soutien Boualem-Sansal, qui appelle à contrarier ce funeste dessein et à se mobiliser encore plus massivement pour exiger la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien, d'où cette grande manifestation annoncée ce mardi à Paris, 2 jours avant que la justice algérienne fasse connaître son verdict.
Dans la presse hebdomadaire également, un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais.
Le président russe est à la une du Point en treillis avec ce titre « L'étrangleur ». Comment le piège tendu par Poutine se referme ? C'est bien sûr de la guerre en Ukraine dont il est question, une guerre que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt immédiat à cesser, estime l'hebdomadaire. Bien au contraire, la logique militaire l'encourage à maintenir la pression sur l'armée ukrainienne. Il a pour lui l'initiative, l'objectif, la stratégie, les moyens et une fine compréhension de la psychologie de Donald Trump. Lequel Donald Trump ajoute le Point, étale ses cartes, affirme sa prééminence, multiplie les ballons d'essai. Poutine, au contraire, est un artiste du marchandage. Il cache son jeu, dit l'inverse de ce qu'il pense, avance ses pions l'air de rien, mais avance avec constance et détermination. Acceptera-t-il un cessez-le-feu ? S'il le faut, il le fera, anticipe le Point, mais non sans avoir obtenu le maximum de concessions en échange.
De son côté, l'Express se targue d'avoir interviewé l'homme qui a fabriqué Poutine.
Interviewé, mais pas rencontré, car Vladislav Surkov est plus que discret. Il a donc répondu aux questions par écrit. C'est toutefois, nous dit l'Express, sa première interview politique depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'hebdomadaire le présente comme un redoutable politicien, celui que l'on peut considérer comme l'architecte du système russe. Avant de tomber en disgrâce, Vladislav Surkov a servi Vladimir Poutine durant 2 décennies. Éminence grise, faiseur de roi. Et s'il a pris ses distances avec le président russe, il n'en partage pas moins certaines de ses positions. Il considère, nous ni le Point, l'Ukraine comme une entité politique artificielle. Et quand on lui demande quelle issue pourrait être considérée comme une victoire pour Moscou, il répond « l'écrasement militaire ou militaro-diplomatique de l'Ukraine ». Et quand on l'interroge sur les frontières russes, il s'enflamme. Le monde russe n'a pas de frontières, il est partout où l'on trouve une influence russe sous une forme ou sous une autre. Nous nous étendrons donc dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. Des propos que ne renierait certainement pas Vladimir Poutine.
Et pour finir, Catherine, un autre point chaud du globe, la Syrie.
Massacre en Syrie, la mort en face, titre le Nouvel Obs, qui rappelle que près de 1500 personnes, dont 3/4 de civils et essentiellement alaouites, ont été tués dans la région de Latakié. Les violences les plus meurtrières depuis l'installation du nouveau régime. Le Nouvel Obs a interrogé un jeune homme de 29 ans, Anas, qui a survécu, ses parents et son frère aussi. Mais, raconte l'hebdomadaire, à une minute près, ils auraient pu finir comme leurs voisins que les milices alliées au pouvoir en place ont traîné hors de sa maison et ont abattu là, dans la rue, à quelques mètres de leur fenêtre, comme un chien. Anas a tout vu à travers les rideaux clairs du salon de la maison où toute la famille est restée cachée pendant 3 jours. La famille d'Anas, poursuit le Nouvel Obs, est alaouite, ce qui ne l'empêche pas d'être résolument opposé au régime du clan de Bachar el-Assad. Samir, le père d'Anas, a été arrêté et emprisonné 10 ans dans une prison à Tartous comme opposant politique. Un argument qui ne pèse pas lourd à l'heure des règlements de compte quand les assaillants Kalachnikov en bandoulière ont débarqué. Anas a compris qu'ils étaient résolus à mettre la ville à sac.
La revue de presse signée Catherine Potet. Merci beaucoup, très bon dimanche.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, à un peu moins de 2 mois maintenant de l'élection pour la présidence du parti Les Républicains, et une certitude depuis cette semaine, ce sera bien un duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, puisqu'aucun autre candidat ne s'est déclaré dans les délais impartis. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
La campagne s'est nettement tendue entre les deux hommes.
Oui, en challenger, Laurent Wauquiez est contraint à l'attaque avec cette ligne « Vanter l'indépendance contre la solidarité au fragile et composite gouvernement de François Bayrou. Alors il saute sur toutes les balles, notamment celle offerte sur un plateau par Bruno Retailleau le week-end dernier. Ce dernier menace désormais de démissionner de son poste si, dit-il, la France cède sur le dossier algérien dans lequel, on le rappelle, il entend mener un bras de fer à travers une riposte dite graduée allant jusqu'à la dénonciation des accords de 1968, ce qui n'est pas sans risque puisque le président Macron n'est pas forcément favorable, du moins publiquement, à une telle action. Laurent Wauquiez s'en saisit dans une interview au Parisien. L'exécutif, je cite, a choisi de capituler avant même de combattre. Si le président refuse de dénoncer des accords, rester au ministère de l'Intérieur n'a aucun sens. Mardi, nouvelle pique. Lors des questions au gouvernement, le chef des députés LR s'adresse au Premier ministre en déplorant l'absence de grande loi immigration. Il demande « Êtes-vous déterminé à donner les moyens à votre gouvernement d'agir ?» Rebelote jeudi dans un tweet sur X en réaction au réquisitoire de 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Laurent Wauquiez, je cite, explique que la riposte algérienne, elle, n'est pas graduée. Cette mise sous pression ressemble furieusement à la stratégie du Rassemblement national et le ministre de l'Intérieur choisit de ne pas y répondre. Du moins, la semaine dernière, il s'est risqué à une formule à la radio. Les chiens aboient, la caravane passe. Son concurrent extrapole dans la foulée, se disant convaincu que Bruno Retailleau regrette cette formule malheureuse.
Et en coulisses, en revanche, les équipes de Bruno Retailleau parlent.
Oui, son entourage le dit avec ironie. Laurent Wauquiez a cet avantage sur nous de ne pas être chef de groupe à l'Assemblée nationale. Son absence aux deux débats sur l'Ukraine est une honte, je cite. Laurent Wauquiez délaisse, il est vrai, ses fonctions de député pour faire près de 120 déplacements de campagne jusqu'à la mi-mai. Il faut faire des cartes, comme on dit dans le jargon. 20 000 nouveaux adhérents ont rejoint les rangs d'LR depuis le début de la campagne, soit à cette heure 60 000 potentiels électeurs à la mi-mai. Dans cette bataille de l'ombre, les retaillistes montrent quelques signes d'agacement ces derniers jours. L'un d'eux avoue en off, Laurent Wauquiez a la main sur le parti et ça hurle de plus en plus chez nous. De quoi laisser penser à un autre match dans le match que les wauquiezistes imposent, le candidat des adhérents contre celui des barons du parti. Façon pour eux de minimiser les nouveaux soutiens de poids lourd pour Retailleau, Valérie Pécresse et la ministre Sophie Prima ces derniers jours.
Raphaël Delvolvé de notre service politique, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et dans Chemin d'écriture aujourd'hui, le premier roman de la réunionnaise Fabienne Jonca, un récit incandescent de quête des origines, de désespoir existentiel, du temps perdu et retrouvé sous une plume alerte et magique. C'est ce que vous en retenez, Tirtankar Chanda, bonjour.
Bonjour Julien Coquel-Joem.
Brown Baby est le titre du roman au menu aujourd'hui.
En effet, il s'agit d'un premier roman basé sur un épisode historique peu connu du monde francophone. Auteur de livres et de podcasts sur des sujets divers et variés, Fabienne Jonca s'est inspirée de la tragédie des enfants métis abandonnés après la Seconde Guerre mondiale et elle en a fait le sujet d'un premier roman bouleversant et poétique. Fabienne Jonca.
Il y a quelques années, c'était en 2017-2018, je travaillais sur un projet de documentaire sur les Cape Colored en Afrique du Sud, donc les métis sud-africains. Et lors de mes recherches, j'ai vu un documentaire sur les Brown Babies. Ce sujet méconnu a été une telle obsession que j'ai voulu donner voix à ces Brown Babies, mais j'ai fait aussi énormément de recherches puisque c'est un roman sur fond historique. Pour moi, le propos étant que on peut vivre la vie qu'on veut, on sera toujours rattrapé par la grande histoire.
Tirtankar, quelle est cette grande histoire dont parle Fabienne Jonca?
C'est la Seconde Guerre mondiale et ses répercussions. C'est dans ce contexte que se déroule le drame des Brown Babies, soit 7000 enfants métis, nés en Allemagne au lendemain de la guerre. Nés des liaisons très mal vues entre des femmes allemandes et les GI africains-américains affectés en Europe. Sous des pressions sociales et matérielles, nombre de ces enfants sont abandonnés par leur mère, puis placés dans des orphelinats ou adoptés par des familles noires aux États-Unis. La plupart de ces Brown Babies ont découvert leurs origines en devenant adultes. C'est cette histoire tragique d'errance et de quête des origines que donne à lire la réunionnaise Fabienne Jonca, mais réimaginée.
Comme dans Brown Baby, dont l'action se situe à Paris.
En effet, nous sommes ici dans la France des années 1950, où vient débarquer une famille noire de Harlem. Le père Charlie est trompettiste. Il joue dans des clubs de jazz, mais l'essentiel de l'action de ce roman se déroule plutôt dans l'arrière-cour, où les protagonistes évoluent, entourés d'un petit peuple de prolétaires cosmopolites et solidaires. Or, la solidarité et l'affection des siens n'empêcheront pas Sam, le fils de Charlie, et sa femme Rosa de connaître le drame et le désarroi lorsqu'ils découvrent qu'il est un enfant adopté, abandonné par ses parents biologiques. La quête des origines de Sam constitue le cœur brûlant de ce récit, raconté avec un sens consommé du tragique, rare dans un premier roman.
Et Tirtankar, pour finir, trois raisons pour ne pas rater ce roman.
Tout d'abord, il faudrait le lire pour découvrir une histoire peu connue qui nous fait plonger dans les abîmes de l'existence humaine. Deuxièmement, il faut lire ce roman pour sa narration ludique, inventive, avec des chapitres intitulés « D'après des œuvres d'art », des titres des morceaux de jazz ou encore des titres de livres. Enfin, il faut lire ces pages jalonnées de poésie, dont ces vers qui reviennent hanter le protagoniste à la disparition de son premier amour, Fabienne Jonca.
À une passante. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Baudelaire, poète de chevet de Fabienne Jonca.
Brown Baby, le premier roman de Fabienne Jonca. Dans Chemin d'écriture, merci beaucoup Tirtankar Chanda. Et bientôt 7h30 en temps universel. La suite sur RFI, c'est un nouveau point sur l'info africaine dans moins de 5 minutes. D'abord, notre reportage culture et une exposition au Centre Pompidou de Metz en France pour interroger notre regard sur l'art et le monde, une autre vision au-delà de la pensée occidentale et coloniale qui relègue toujours aujourd'hui au deuxième plan l'Afrique, les Amériques ou le Moyen-Orient, intitulé « Après la fin, carte pour un autre avenir ». L'exposition réunit une quarantaine d'artistes, Muriel Mahalouf.
Un film montrant une danse de l'escargot du mouvement zapatiste ouvre le parcours et donne le ton de l'exposition. Manuel Borja-Villel, commissaire.
Escargot, c'est ainsi qu'ils appellent leur ville. Ce qu'ils proposent donc, c'est une autre forme de connaissance et de gouvernance.
Ainsi, l'escargot ou la spirale constitue la scénographie de l'exposition. Dans la spirale, le passé et le futur sont liés, les lieux également. Une quarantaine d'artistes des Caraïbes et de la Méditerranée proposent ainsi leur vision utopiste à l'encontre du système libéral hégémonique et du colonialisme créateur de frontières. Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz.
Puis la consulat scénographique, on est en 8, donc avec des cercles qui séparent, des mondes. Donc il commence avec la sphère, on peut dire, latino-américaine, donc Brésil, Cuba, les Caraïbes français. Et l'autre partie de l'8, l'autre partie du cercle, c'est la Palestine et les autres territoires, donc la Méditerranée.
Dans ce 8 cohabitent des artistes diasporiques, comme ils sont nommés dans l'exposition, pour qui la frontière n'est pas qu'une limite, mais un carrefour.
Les rapports, c'est un rapport de souffrance, de combat, mais aussi de beaucoup de poésie et de force, d'optimisme et des possibilités de régénérer notre regard aujourd'hui. Ces artistes-là, parce qu'ils sont là depuis toujours, ils sont là depuis des siècles. On a même des figures, par exemple, comme Wilfred Lam, qui est un des plus grands artistes du surréalisme. Et ta nouvelle génération, qui parle donc des mêmes questionnements, ça veut dire qu'on peut vivre dans un monde collectif sans qu'il y ait une hégémonie culturelle d'un peuple sur un autre.
Ainsi, l'artiste palestinien Ahlam Chebli présente dans Occupation une série de photos prises durant 2 ans dans sa ville d'Al-Khalil à Hébron et rendant compte des traces de la colonisation israélienne sur l'architecture. Murs, clôtures, barbelés, caméras autour des maisons palestiniennes dominées par les immeubles flambant neufs des colons. En écho, le collectif marocain Tizine Tizoua présente un film sur les traces du peuple amazigh aux îles Canaries qui aurait été massacré au XIVe siècle et dont il reste le style beau, un langage de sifflet. Olivier Marbeuf propose lui une magistrale fresque sonore et une sorte de cartographie réparatrice des effets de la colonisation et dominée par le bleu de la mer. Des œuvres et une exposition puissante.
Moi, j'ai toutes les histoires du pays dans la tête, tu sais. C'est peut-être trop d'histoires, hein, c'est vrai. Une migraine d'histoires que personne ne veut entendre.
Muriel Malouf pour notre reportage culture avec cette exposition au Centre Pompidou-Metz. Après la fin, carte pour un autre avenir. Et le journal dans une minute sur RFI. À tout de suite.
RFI à Curepipe, 93.2 FM.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Un paradis vert, un Éden, un zoo géant, des safaris. Cette image est restée comme l'identité du continent africain. Si tout paraît naturel et évident, elle est pourtant le fruit de 3 siècles d'un colonialisme vert dont la devise est la suivante, préserver le continent de ses habitants. Je vous raconte l'histoire d'un mythe.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.